chapitre 27, sort des ennemis de Jésus. Selon le calcul que nous adoptons, la mort de Jésus tomba l'an 33 de notre ère. Elle ne peut en tout cas être ni antérieure à l'an 29, la prédication de Jean et de Jésus ayant commencé l'an 28, ni postérieure à l'an 35, puisque en 36, elle se me semble avant Pâques, Pilate et Caïphas perdirent l'un et l'autre leurs fonctions. La mort de Jésus paraît du reste avoir été tout à fait étrangère à ces deux destitutions. Dans sa retraite, Pilate ne se jappompa pas un moment à l'épisode oublié qui devait transmettre sa triste renommée à la postérité la plus lointaine. Quant à Caïphas, il eut pour successeur Jonathan, son beau-frère, fils de ce même Hanan, qui avait joué dans le procès de Jésus le rôle principal. La famille sadducéenne de Hanan garda encore longtemps le pontificat, et plus puissante que jamais, ne cessa de faire aux disciples et à la famille de Jésus la guerre acharnée qu'elle avait commencée contre le fondateur. Le christianisme, qui lui dut l'acte définitif de sa fondation, lui dut aussi ses premiers martyrs. Hanan passa pour un des hommes les plus heureux de son siècle. Le vrai coupable de la mort de Jésus finit sa vie au comble des honneurs et de la considération, sans avoir douté un instant qu'il eût rendu un grand service à la nation. Ses fils continuèrent de régner autour du temple, à grand-peine réprimés par les procurateurs, et bien des fois se passant de leur consentement pour satisfaire leurs instincts violents et hautains. Antipas et Hérodiade disparurent bientôt de la scène politique. Hérode Agrippa, ayant été élevé à la dignité de roi par Caligula, la jalouse Hérodiade jura, elle aussi, d'être reine. Sans cesse pressée par cette femme ambitieuse, qui le traitait de lâche parce qu'il souffrait d'un supérieur dans sa famille, Antipas surmonta son indolence naturelle et se rendit à Rome afin de solliciter le titre que venait d'obtenir son neveu, en l'an 39 de notre ère. Mais l'affaire tourna au plus mal. Desservi par Hérode, Agrippa, auprès de l'empereur, Antipas fut destitué et traîna le reste de sa vie d'exil en exil à Lyon, en Espagne. Hérodiade le suivit dans ses disgrâces. 100 ans au moins devaient encore s'écouler avant que le nom de leur obscur sujet, devenu Dieu, revînt dans ces contrées éloignées, rappelé sur leur tombeau le meurtre de Jean-Baptiste. Quant au malheureux Judas de Kenyotte, des légendes terribles coururent sur son mort. On prétendit que du prix de sa perfidie, il avait acheté un champ aux environs de Jérusalem. Il y avait justement au sud du mont Sion un endroit nommé Hakel-Lama, le camp du champ. On supposa que c'était la propriété acquise par le traître. Selon une tradition, il se tua. Selon une autre, il fit dans son champ une chute, par suite de laquelle ses entrailles se répandirent à terre. Selon d'autres, il mourut d'une sorte d'hydropisie, accompagnée de circonstances repoussantes que l'on prit pour un châtiment du ciel. Le désir de montrer dans Judas l'accomplissement des menaces que le psalmiste prononce contre la vie perfide a pu donner lieu à ces légendes. Peut-être, retiré dans son champ de Hakel-Lama, Judas mena-t-il une vie douce et obscure, pendant que ses anciens amis conquéraient le monde et y semaient le bras de son infamie. Peut-être aussi l'épouvantable haine qui pesait sur sa tête aboutit-elle à des actes violents, où l'on vit le doigt du ciel. Le temps des grandes vengeances chrétiennes était du reste bien éloigné. La secte nouvelle ne fut pour rien dans la catastrophe que le judaïsme allait bientôt subir. La synagogue ne comprit que beaucoup plus tard à quoi l'on s'expose en appliquant des lois d'intolérance. L'Empire était certes plus loin encore de soupçonner que son futur destructeur était né. Pendant près de 300 ans, il subira sa voie sans se douter qu'à côté de lui croisent des principes destinés à faire subir au monde une complète transformation. À la fois théocratique et démocratique, l'idée gelée par Jésus dans le monde fut avec l'invasion des Germains la cause de dissolution la plus active pour l'œuvre des Césars. D'une part, le droit de tous les hommes à participer au royaume de Dieu était proclamé, et de l'autre, la religion était désormais en principe séparée de l'État. Les droits de la conscience, soustraits à la loi politique, arrivent à constituer un pouvoir nouveau, le pouvoir spirituel. Oh, ce pouvoir a menti plus d'une fois à son origine. Durant des siècles, les évêques ont été des princes et le pape a été un roi. L'Empire prétendu des âmes s'est montré à diverses reprises comme une affreuse tyrannie, employant pour se maintenir la torture et le bûcher. Mais le jour viendra où la séparation portera ses fruits, où le domaine des choses de l'esprit cessera de s'appeler un pouvoir pour s'appeler une liberté. Sorti de la conscience d'un homme du peuple, écho, clos devant le peuple, aimé et admiré d'abord du peuple, le christianisme fut empreint d'un caractère originel qui ne s'effacera jamais. Il fut le premier triomphe de la Révolution, la victoire du sentiment populaire, l'avènement des simples de cœur, l'inauguration du beau comme le peuple l'entend. Jésus ouvrit ainsi dans les sociétés aristocratiques de l'Antiquité la brèche par laquelle tout passera. Le pouvoir civil, en effet, bien qu'innocent de la mort de Jésus, il ne fit que contresigner la sentence, et encore malgré lui, devrait emporter lourdement la responsabilité. En présidant dans la scène du calvaire, l'État se portant le coup le plus grave. Une légende pleine d'irrévérences de toutes sortes prévalut et fit le tour du monde. Légende où les autorités constituées jouent un rôle odieux, où c'est l'accusé qui a raison, où les juges et les gens de police se liguent contre la vérité. Séditieuse au plus haut degré, l'histoire de la passion, répandue par des milliers d'images populaires, montra les aigles romaines sanctionnant le plus inique des supplices, des soldats l'exécutant, un préfet l'ordonnant. Quel coup pour toutes les puissances établies! Elles ne s'en sont jamais bien relevées. Mais comment prendre à l'égard des pauvres gens des airs d'infaillibilité quand on a sur la conscience la grande méprise de Gethsémani?